nous allons avoir une quatrième loi en 7 ans sur le droit des étrangers. Comme vous pouvez vous en douter, ces lois n'ont fait que aller toutes dans le même sens, c'est-à-dire la restriction des droits des étrangers, les mettre de plus en plus dans une situation d'insécurité juridique absolue.
Mercredi dernier avait lieu à Lille une réunion régionale contre la loi Besson. Le projet de loi Besson qui sera présenté à l'Assemblée nationale fin septembre est une étape supplémentaire dans la répression et le recul des droits que subissent les étrangers en situation régulière ou non en France. Lors de cette réunion, deux juristes ont largement détaillé les modifications qu'apporterait la loi si elle passait. Allongement de la durée de rétention, création de zones d'attente spécial, rôle plus limité du juge des libertés. Le gouvernement présente ce projet de loi comme la transcription d'une directive européenne. Ce n'est pas le point de vue de Gaston Debar. Il est président de la section locale de la CIMAD de Lille.
Bon, alors déjà, les directives européennes n'ont pas un caractère obligatoire, elles ont un caractère indicatif, effectivement, sachant que tous les États doivent se conformer à ne pas dépasser ce qu'il y a dans ces directives. Bon, la France, sur la plupart des points, est actuellement meilleure que cette directive. Donc elle n'avait pratiquement pas besoin de les adapter, puisqu'elle avait déjà une législation meilleure que celle qui était contenue dans les directives. Donc la présentation qui est faite par le gouvernement de dire qu'il s'agit de s'adapter à la directive européenne est une présentation fallacieuse, puisque justement on va durcir la situation française pour se rapprocher des maximums autorisés par la directive, alors qu'on était bien en dessous et qu'on les satisfaisait. Donc sur un certain nombre de points, c'est ce qui a été dit, en particulier par exemple sur la durée de rétention. La directive dit maximum 18 mois. Pourquoi ? Parce que dans certains pays, il n'y avait pas de limite. Et ça pouvait être effectivement de 10, 15, 20 ans à vie, même si dans la réalité ce n'était pas le cas, mais enfin légalement ça était possible. Donc maintenant il y a une durée maximum pour que tous les pays doivent mettre moins de 18 mois. Nous on était en dessous de 18 mois, pourquoi augmenter ? Nous on n'avait aucune raison.
L'idée derrière ce projet de loi, c'est de limiter en fait les droits des étrangers pour finalement faciliter cette mécanique des expulsions.
Alors l'idée est effectivement de limiter considérablement l'accès à la justice, renforcer le pouvoir de l'administration, de telle sorte que effectivement le gouvernement a un pouvoir sur l'administration, il en a beaucoup moins sur la justice. Et donc aujourd'hui on constate qu'un certain nombre de décisions administratives sont annulées par les institutions judiciaires. Et donc une des idées principales, c'est bien d'essayer de faire en sorte que ça ne puisse plus se produire. Alors on en arrive à des aberrations, comme par exemple ça a été signalé, de dire que la rétention, c'est-à-dire enfin la privation de liberté pour un simple quelqu'un sans papier, va être supérieure à celle qui est légale pour un terroriste. C'est quand même quelque chose d'aberrant. Le trouble de l'ordre public n'est quand même pas du tout pas le même, et il n'est pas du même ordre de grandeur.
Tout ça va aussi mettre des bâtons dans les roues des associations, des collectifs qui essaient de lutter auprès des sans-papiers, qui essaient de les aider juridiquement. Alors, un point qui me semblait important, c'était l'histoire du juge des libertés, dont le rôle est presque devenu... facultatif, quoi, c'est ça ?
Absolument, oui. Oui, oui. Non, mais on peut, si on revient sur cet aspect de la rétention, par exemple, aujourd'hui, on s'aperçoit que pratiquement la totalité des gens dans les centres de rétention sont libérés au bout de 10 jours, soit parce qu'ils ont été expulsés, soit parce qu'ils ont été libérés. Le fait, il n'y en a que quelques-uns, qu'un faible pourcentage qui reste jusqu'à 32 jours. Le fait de les conserver jusqu'à 45 jours, ça paraît même anti-économique. Puisque de toute façon, s'ils n'ont pas pu être expulsés au bout de 32 jours, ils ne le seront pas au bout de 45. Ce n'est pas 13 jours de plus qui vont changer quoi que ce soit.
L'une des nombreuses autres inquiétudes des associations qui viennent en aide aux migrants porte sur les droits des demandeurs d'asile.
Que va-t-il se passer pour les demandeurs d'asile qui auront une interdiction de territoire et qui n'auront même pas accès à la demande d'asile? Déjà aujourd'hui, c'est un parcours du combattant pour avoir accès à la demande d'asile à cause de la Convention européenne Dublin qui dit que la demande d'asile doit être faite dans le premier pays où l'étranger est passé. Ça va encore compliquer l'accès à la demande d'asile. J'espère que le Conseil constitutionnel, que les députés, qu'un certain nombre de députés de toutes, quelle que soit leur origine politique, vont se rendre compte qu'il y a des choses inadmissibles. Moi, ce que je constate dans la vie de tous les jours, c'est que quand on met, c'est qu'on a des hommes, on traite avec des hommes, des étrangers, et que quand on met un homme en situation de détresse en face d'un autre homme, normal, en général, la réaction change et le regard qu'on en a change, quelle que soit la couleur politique des gens. C'est donc une des choses qu'il faut arriver à faire, et je pense qu'il faut réussir à faire en sorte que les députés et les sénateurs se rendent compte que il y a une autre voie que de faire en sorte qu'ils ne puissent pas rentrer ou les expulser le plus tôt possible. Enfin, on est quand même dans un pays où on en a beaucoup parlé avec les Roms, il y a 60 millions d'habitants, un pays riche, ne pas pouvoir accueillir quelques centaines d'Afghans parce que ça ne dépasse pas quelques centaines, quelques milliers de Roms parce qu'effectivement, on a cité le chiffre de 15 000, mais je ne pense pas qu'ils soient si nombreux, ça paraît inadmissible, et les maintenir dans des conditions de vie telles que la jungle de Calais ou les équivalents à Lille, hein, parce que aujourd'hui, une constatation qu'on fait aussi en ce moment de fait et qui n'a pas été dit aujourd'hui, c'est que la plupart des demandeurs d'asile n'ont plus accès à un logement parce que les crédits qui permettaient de les loger ont été réduits, parce que les centres d'accueil de demandeurs d'asile sont pleins, etc. Elles sont dans les rues. Elles sont dans les rues où ils se font agresser. Ça, c'est pas normal.
Le travail est nécessaire, en effet. Il faut qu'on ait le truc le moins horrible possible. Mais à un moment donné, si on se leurre en croyant que c'est suffisant, on va s'en prendre une dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Donc à un moment donné, il faut se mobiliser sur les bases politiques. Moi, c'est mon avis. Quoi.
Excuse-moi, mais l'expérience montre que si tu fais une manif et qu'il y a 10 000 personnes, Sarkozy, il va dire qu'il y a 63 millions de personnes qui n'ont pas manifesté. Et qu'en fait, on a le coup du râteau. Si on fait une manif avec même 10 000 personnes à Lille, ils vont ricaner parce qu'on n'est pas assez nombreux pour les déstabiliser. Et les manifs, ça ne marche plus. Enfin, moi, je mets les pieds dans le plat aussi. Les manifs, on en crève. On en crève de les multiplier, de ne pas être assez nombreux et d'être ridiculisés comme les droits de l'homiste gauchos sans intérêt avec un discours stéréotypé qui fait qu'on n'est pas entendu. Alors c'est vrai, tu as raison, on est toujours à essayer de garder de pas partir vers le moins pire, que c'est pas satisfaisant, mais le mouvement massif, on n'a pas les gens derrière nous. Et c'est pour ça que pour moi, les médias, je suis désolée, il faut être opportuniste, les médias, il faut les utiliser habilement, on n'a pas la masse avec nous.
Beaucoup d'échanges et de discussions lors de cette réunion portaient sur les moyens de mobiliser la population contre ce projet de loi Besson. Pas mal de questions aussi sur le délit de solidarité. Pas mal de témoignages de différents collectifs. Le collectif des sans-papiers 59, l'asso Fraternité Migrants d'Angres qui a fait état des pressions exercées par les préfectures sur les communes qui organisent une aide humanitaire auprès des migrants. Et puis un an, jour pour jour, après l'évacuation surmédiatisée de la jungle de Calais, on a récolté aussi le témoignage d'un membre du collectif No Border. Il est britannique, il s'appelle Dariush.
No Borders have been working in Calais for 1 year since last June.
Ça fait plus d'un an que le collectif No Border travaille à Calais. Et depuis, la répression exercée par la police sur les migrants a continué, et peut-être même empiré. Cette situation, comme vous le savez peut-être, dure depuis la fermeture de Sangatte en 2001. Il y a beaucoup de brutalité policière. On a vu la fermeture de la jungle, où vivaient beaucoup d'Afghans. On a vu la fermeture du hangar, que les No Borders ont essayé d'ouvrir. Récemment, on a vu beaucoup d'évacuations de squats. Tous les jours à Calais, des sans-papiers sont battus, arrêtés, placés en détention. Des gaz lacrymogènes sont versés dans leurs réserves d'eau. Leurs matelas, leurs couvertures, leurs effets personnels sont volés. De la bombe lacrymo lancée sur leur lit. Des choses comme ça sont des réalités quotidiennes. Les gens sont poursuivis. Ils sont vraiment chassés comme des animaux tous les jours à Calais. Et aussi dans d'autres endroits en France.
Comment vous organisez-vous pour venir en aide aux migrants et quelle aide leur apportez-vous ?
Nous croyons en la solidarité. Nous ne sommes pas là comme des humanitaires pour donner la charité aux pauvres. Nous essayons de nous organiser, nous qui sommes pour la plupart européens et qui avons des papiers et des passeports. Nous pensons que nous sommes exactement comme les gens qui n'ont pas de passeport européen et que nous devons rester ensemble et lutter à leur côté pour se protéger les uns et les autres. Par exemple, nous essayons de dormir dans les mêmes endroits que les sans-papiers. Nous vivons avec eux, nous mangeons avec eux, on cuisine, on marche en ville avec eux. Quand la police arrive, on surveille, on les avertit. Pendant les contrôles, on prend des photos, on fait des films pour fournir des preuves. On les aide au niveau juridique, on donne des cours d'anglais. On essaye aussi de leur apporter un peu de joie et un peu de normalité dans leur vie. La semaine dernière, on organisait des fêtes, des expos, du théâtre de rue, n'importe quoi pour leur faire penser à autre chose que leur vie de tous les jours, la répression, la peur au quotidien qu'ils subissent de la part de la police. Et aussi, comme beaucoup d'entre nous viennent du Royaume-Uni, on peut fournir des contacts là-bas pour ceux qui réussissent à passer.
Comment se fait-il, selon toi, que dans ce collectif No Border à Calais, il y ait tant de Britanniques et si peu de Français ?
Il y a des Français, mais certainement pas assez. Les conditions à Calais sont très difficiles. Beaucoup de gens ont peur. On a eu de nombreux soutiens de la part des Calaisiens. Ils nous donnent des informations, de l'aide, de l'argent. Ils nous préviennent, mais beaucoup ont peur. Par exemple, un voisin d'un squat a filmé ce qu'il se passait dans le squat. Mais ensuite, il a eu très peur que la police vienne l'arrêter et l'accuser de ce fameux délit de solidarité. Les gens ont peur de la police, ils ont peur de s'opposer. La situation à Calais, c'est celle de CRS qui se comporte comme une armée d'occupation. Ils tournent en ville et harassent les migrants. La plupart des Calaisiens ont de la sympathie pour les migrants, mais ils ne savent pas comment la montrer, ou ils ont trop peur. Et ils ont des ennuis avec la police s'ils travaillent aux côtés des migrants. J'espère que des gens vont nous rejoindre et se montrer solidaires envers les migrants. Parce que si les gens ordinaires en France font cela, alors la police et l'État ne pourront plus exercer de répression. Ils peuvent seulement exercer cette brutalité parce que les gens les laissent faire. Si les gens ne ferment plus les yeux, suivent leur cœur et s'impliquent, alors ces choses n'arriveront plus. Il faut qu'on trouve des moyens tous ensemble de travailler au respect de chacun. C'est notre message. Alors, s'il vous plaît, rejoignez-nous.
Dariush, du collectif No Border, un collectif qui milite pour la liberté de circulation pour tous et toutes et la fin des frontières et des contrôles migratoires. On l'a croisé, donc c'était mercredi dernier au cinéma L'Univers à Lille lors de cette conférence contre le projet de loi Besson. Si vous voulez en savoir un peu plus, il y a un site internet qui est le www.contrelaloibesson.org. Également à signaler plusieurs rendez-vous cette semaine sur la même thématique. D'abord à Lille, la fête de l'indignation, concert de soutien pour une politique juste envers les gens du voyage et les Roms, avec Marcel et son orchestre, Loïc Lantoine, New Stompers, Gilles Defac, Jeff Kino et Swingadje. Et ça se passe demain soir à 20h à l'Aéronef à Lille. Tarif 10 euros, la totalité des bénéfices sera reversée à la Ligue des droits de l'homme au bénéfice du collectif de soutien aux Roms. Et puis, autre soirée de soutien cette fois-ci pour le camp No Border de Bruxelles, un camp qui se tiendra en Belgique du 25 septembre au 3 octobre. Et à Lille, il y aura une soirée de soutien donc au Centre culturel libertaire. Projection du film Ce sont des hommes et musique avec The Midnight Rovers, c'est du rock'n'roll, et The Angry Cats, c'est du rockabilly. Et ça se passe ce samedi à partir de 18h.